10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour chers amis auditeurs, c'est parti, vous le savez, jusqu'ici de 10h à 11h, nous sommes là pour commenter, décrypter et analyser l'actualité. Et au programme de cette émission, eh bien nous allons revenir sur la ministre Madame Sarah El Haïry qui sera avec nous dans une poignée de minutes pour parler de deux sujets, la lutte contre la prostitution des mineurs. Elle viendra donc longuement sur ce qu'elle veut développer, hein, sur ce qu'elle appelle elle, les maraudes numériques. On viendra aussi sur les parents sur le, vous savez, pour leur garantir cette liberté. On en parlera aussi. Ça, c'est l'invité du jour. Tout à l'heure, dans une poignée de secondes, elle sera avec nous. Ensuite, les débatteurs influenceurs. Eh bien, tous vont confronter leur point de vue, sont autour de ce plateau pour parler des sujets qui ont retenu plutôt notre attention. On reviendra d'abord sur ce vote de soutien à l'Ukraine. Alors, vous savez que Marine Le Pen veut toujours faire parler d'elle. Soit on est contre Macron, soit on est pour Macron. Eh bien oui, ben, effectivement, la question se pose, parce que beaucoup le pensent, effectivement, et nous en parlerons tout à l'heure. Ensuite, nous parlerons aussi, vous savez, de ce vote de soutien. Je parlais de cette polémique, le clash qui a duré et qui continue de durer entre d'un côté l'extrême droite et de l'autre l'artiste Nakamura, justement. Et elle continue de parler et d'en parler sur les réseaux sociaux et reviendra sur cette violente charge de Marion Maréchal sur BFM TV. Et puis la guerre sur le conflit israélo-palestine, oui, je m'en mêle un peu les pinceaux, eh bien nous reviendrons sur à la fois les déclarations de Tzal, mais également aussi sur la situation et la crise alimentaire sur place. Voilà, c'est tout de suite, c'est maintenant. Ah, j'allais oublier le billet d'humeur du docteur El Professeur Majid Seoussin, hein, son fameux billet d'humeur tout à l'heure, et puis les auditeurs 01 53 48 3000. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, toute liberté d'expression.
Les informés. L'interview.
L'interview, c'est avec Madame Sarah El Haïry, qui est donc ministre. Bonjour Madame la ministre.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous tout d'abord?
Écoutez, ça va, une journée pour les enfants et pour les familles, donc ça va.
Dites-moi, Madame la ministre, Madame Sarah El Haïry, justement, je voudrais vous poser cette première question. Qu'est-ce que vous pensez de cette ambiance en ce moment, vous savez, qui règne concernant coup sur coup, guéguerre sur guéguerre, tout le monde en prend pour son grade concernant les élections européennes. Et puis, Marine Le Pen, qui continue de gratter et d'occuper le terrain.
Non, mais soyons très clairs.
Allons-y.
Les élections européennes, elles sont importantes. Elles sont importantes pour notre vie de tous les jours, pour la sécurité de l'Europe et pour la paix. Aujourd'hui, l'extrême droite fait campagne. Il ne faut pas tomber dans leur piège. L'essentiel, c'est de se mobiliser le 9 juin prochain, d'aller voter et de ne pas laisser les partis d'extrême droite demain représenter la France et d'une certaine manière tuer l'Europe.
Je vais vous demander de vous rapprocher peut-être un peu plus devant le combiné, parce que on a le sentiment, quand on est en direct, de vous entendre au loin, 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 loin. Donc on a du mal à capter vos propos, Madame la ministre. S'il vous plaît, parce qu'on a un peu de mal à capter, évidemment, ce que vous nous dites, et c'est très important. Donc, comment se situe la majorité présidentielle aujourd'hui? Parce que je sais qu'elle est très inquiète, elle est préoccupée, et elle a raison, hein, de l'être, quand elle est créditée de à peine 17% dans le cas de ces élections présidentielles. Vous, vous dites quoi? Quel est votre sentiment, Madame Sarah El Haïry? Est-ce que vous pensez que d'ici quelques semaines, les choses peuvent prendre une autre tournure, Madame la ministre?
Ce qui va compter, c'est les votes qui seront mis dans les urnes le 9 juin prochain. C'est pas les sondages. Par contre, il faut pas être naïf. Cette élection européenne, c'est une élection importante pour la vie de tous les jours, pour les jeunes, pour Erasmus, pour la paix, pour en réalité la solidarité qu'il y a en Europe. Elle est nécessaire. Et on voit monter les populistes, on voit monter l'extrême droite partout en Europe aussi. C'est là où je dis qu'il ne faut pas être naïf.
Est-ce que les gens, justement, en parlant de naïveté, est-ce que, Madame la ministre, franchement, disons-le clairement, parlons-en, mettons les pieds dans le plat, est-ce que les Français ne sont pas en train de se dire tout simplement, on a tout testé, on a tout essayé, hein, d'accord? Et bien finalement, si Marine Le Pen, voilà, on pouvait l'essayer. C'est ce que, franchement, hein, je vous le dis, c'est ce que pense la majorité des Français.
Mais non, jamais. Parce que c'est l'extrême droite, parce qu'il faut rappeler ce que c'est. Parce que c'est une vision qui fait le tri entre les gens. Parce que c'est une vision qui aujourd'hui est pro-russe et qui soutient les Russes contre l'agression des Ukrainiens. Parce que c'est un mouvement qui choisit les forts contre les faibles. C'est ça la réalité. Parce qu'ils divisent. Parce que leur vision aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce qu'ils changent de parole et de prise de position entre la France et Bruxelles. Et donc, il ne faut pas, en tout cas, se laisser, se laisser berner. C'est la réalité, c'est que les élections européennes, elles ont des conséquences dans notre vie de tous les jours, et peut-être plus que jamais. L'Europe, c'est quoi ? L'Europe, c'est une unité, c'est une vision, c'est une culture commune. C'est de la solidarité. Je ne rappelle pas, au moment du Covid, quand nos trains allaient chez nos voisins pour nos malades, quand on a des innovations dans le Pas-de-Calais et que ce sont nos voisins des Pays-Bas qui nous prêtent aussi des ponts parce qu'on a besoin. C'est ça la solidarité européenne. Et face aux puissances mondiales et face dans un monde de plus en plus dangereux, nous avons besoin d'être une Europe forte, une Europe qui se fait confiance, une Europe de la défense. C'est ça la réalité. Et ça, c'est nécessaire pour nos emplois, c'est nécessaire pour, encore une fois, pour nos familles, pour l'éducation. Et c'est pour ça que cette Europe propre, cette Europe forte, moi j'y crois.
Eh bien justement, parlons-en. Il y a toute une série de mesures que vous voulez mettre en place, Madame la Ministre. Vous êtes donc ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles, rappelons-le, Sarah El Haïry, Madame la Ministre hier. Alors je voudrais juste qu'on revienne sur cet événement au cours des questions, des traditionnelles questions, vous savez, au gouvernement. Vous, Madame la Ministre chargée de l'enfance, de la jeunesse et des familles. Alors, paraît-il qu'il y a eu un mélange de deux expressions à la fois on vous prête, comme quoi vous auriez confondu l'opprobre et l'opprobre. Alors, ouais, vous avez donc, on peut revenir évidemment, vous avez l'occasion de revenir sur ces propos en direct dans Les Informés. Allons-y.
Mais ma langue a fourché, c'est vrai. Ça arrive, c'est tourné en dérision depuis hier sur les réseaux sociaux. C'est de bonne guerre. C'est pas très grave, c'est pas le plus grave. Mais une fois ce fait passé, moi je suis contente que tout le monde ait écouté ce message. Parce que c'est le fond du message qui comptait. Les propos de Sandrine Rousseau sont graves. Elle insinuait que tous les enfants de l'ASE étaient violés. Et c'est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, les enfants qui sont accueillis dans la protection de l'enfance, ils ont besoin de la mobilisation de tous les adultes. Aujourd'hui, la protection de l'enfance, elle vit une période de crise, c'est vrai, qui est plus difficile que d'habitude. Et ses propos sont graves parce que, un, ce qu'elle a dit était faux. Deux, elle stigmatise ses enfants qui, aujourd'hui, ont plus de difficultés pour trouver un stage, ont plus de difficultés pour trouver un emploi, qui n'accèdent pas à l'ensemble de leurs droits. Et puis, troisièmement, c'est doublement, triplement plus grave, parce qu'en plus, elle jette le discrédit sur les professionnels qui accompagnent et protègent ces enfants. Je pense aux assistants familiaux, je pense aux éducateurs spécialisés, aux infirmiers, aux psychologues qui entourent ces enfants. Et ça, c'est grave. Au moment où nous avons besoin plus que jamais de recruter, de donner envie à des hommes et des femmes de rejoindre cette grande famille de la protection de l'enfance.
Eh ben justement.
Il y a de plus en plus d'enfants qui sont accueillis parce que notre société.
Alors justement. Autre sujet, je sais que vous êtes très, très attaché à cela, et c'est un de vos chantiers très forts que vous portez, c'est la prostitution des mineurs qui est en forte hausse, hein, rappelons-le quand même. Hein. Et vous, Sarah El Haïry, Madame la Ministre, vous dites ne pas avoir honte de demander de l'aide. Alors vous dites, je veux briser le tabou de la prostitution des mineurs. Parlons-en justement, parce que vous voulez développer ce qu'on appelle les maraudes numériques, c'est-à-dire.
Oui. Les maraudes numériques, c'est un projet qui permet finalement à des associations de discuter, de créer du lien avec des jeunes filles ou des jeunes garçons sur les réseaux sociaux et pour les alerter sur la prostitution en particulier des enfants. Un mineur qui se prostitue est un enfant qui est victime, qui a besoin d'aide. Et je pense qu'il faut le rappeler. Et quand je dis il faut briser les tabous, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que à la maison, qu'on ose en parler, c'est pas facile. Je dis pas que c'est une discussion facile, pas du tout. Mais quand on ne sait pas si son fils ou sa fille a un compte sur OnlyFans ou sur Mime, si on ne sait pas si sa fille ou son fils a une cagnotte en ligne et en réalité fait des publications très sexuées sur Twitter, on peut pas l'aider, on peut pas le protéger. Et quand on est un parent, un papa ou une maman, et qu'on se retrouve face à cette situation, alors il ne faut pas hésiter à demander de l'aide.
Vous êtes convaincu que ça peut fonctionner, les maraudes numériques ?
Oui, c'est une étape, bien sûr. Elle est nécessaire. Maraudes numériques, maraudes physiques, formation également du corps enseignant, accompagnement des animateurs et des éducateurs spécialisés. Et il y a plusieurs types aujourd'hui de prostitution. Il faut dire les choses. Il y a des enfants qui sont victimes de la traite humaine. Et c'est des passeurs et on lutte contre eux et on les retrouve et on les condamne très lourdement. Il y a aussi ce qu'on appelle des lover boys. C'est un petit copain. Au début, on a l'impression qu'il nous aime et finalement, on est amoureuse, on le présente à nos parents. Et puis finalement, petit à petit, après un engrenage, eh bien, il vous prostitue, il vous bat. Comment vous dites à vos parents, alors que vous avez dit à quel point vous l'aimez, ce qui est en train de se passer ? C'est pas facile. Mmh. Et c'est pour ça que c'est difficile de lever ces tabous, mais ça ne peut se faire que à la maison, en ayant confiance. Et si un parent ou un adulte voit ou doute d'une situation, il faut appeler le 119.
Et il y a un numéro que vous rappelez, c'est ça que j'allais vous dire. Ouais, effectivement, allô, enfance en danger, c'est le 119.
Il ne faut pas hésiter. Et il y a des spécialistes derrière pour aider, pour aussi trouver des solutions, pour accompagner. Personne ne doit rester tout seul face à une situation comme celle-là.
Dites-moi, Madame la Ministre, un autre sujet sur lequel vous êtes très attachée. Vous savez qu'il y a une étude qui a été menée pour comprendre pourquoi les femmes aujourd'hui désirent moins de faire les enfants. Alors, on connaît les raisons, hein. Vous savez, on est frappé de plein fouet par l'inflation, on est frappé de plein fouet par le pouvoir d'achat. La raison économique représente évidemment un véritable frein, Madame la Ministre. Et je sais que vous, concernant donc, évidemment, vous, ministre de la Jeunesse et des Familles, vous avez réagi face à cette étude sur les raisons qui poussent les femmes à moins désirer justement pour faire des enfants.
En réalité, aujourd'hui, on voit
ça que... Ça préoccupe.
Les couples français, bien sûr, ça préoccupe beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, les Français, ils ont envie de faire plus d'enfants que ce qu'ils ne font vraiment. Et donc, il y a un écart entre l'envie et la réalité de la naissance des enfants. Alors, plusieurs choses. D'abord, on vit dans un monde de plus en plus complexe. Tout à l'heure, j'ai parlé de la guerre et de l'importance de se mobiliser pour les élections européennes. On connaît la situation de la planète et du dérèglement climatique. Et tout ça amène des angoisses. Alors d'abord, la première des choses, c'est de faire que notre pays soit un pays fort, un pays souverain, qui ne dépend de personne.
Oui, mais par contre, Madame la Ministre, ce qu'il faut dire, c'est que c'est, enfin, une des raisons qui, évidemment, pousse les femmes à faire moins d'enfants, c'est parce que c'est une raison économique d'abord, c'est ce frein.
Il y a en plus ça, effectivement, il y a d'abord cette
ça rassure pas.
Générale, parce que moi je l'entends, hein, cette anxiété. Les gens disent, est-ce que vous voulez que je fasse un enfant dans un
monde ? Le constat est terrible.
Difficile. Et ensuite, on a des réalités. Les réalités, ça, on peut les lever. Les freins, on peut les lever. Le premier frein, c'est je n'ai pas de moyens de garde. Je n'ai pas de moyens d'accueil. Comment je vais faire à la naissance de mon fils ou de ma fille ? Parce que je n'ai pas d'aide pour l'accueillir. Je ne suis pas sûre d'avoir une place en crèche. Je ne suis pas sûre de pouvoir payer une assistante maternelle. Voilà la réalité. Ensuite, on a des maisons et des appartements de plus en plus petits et de plus en plus chers. Alors, on se dit, où est-ce que je vais l'installer ? Comment ça va se passer ? Souvent, ça freine soit le premier enfant, soit le troisième. Ah. Et ensuite, on a des situations de familles monoparentales qui, autour de nous, on voit que c'est plus difficile. C'est pour ça que le gouvernement, il a décidé de faire quoi ? Permettre un service public de la petite enfance. Permettre à chaque parent qui en a besoin d'avoir une solution de garde à prix raisonnable et de qualité. On a mis le complément de mode de garde pour permettre aux familles monoparentales d'avoir un soutien financier pour que leurs enfants puissent être accueillis de 6 ans à 12 ans. Alors, parce que oui, un enfant, il ne reste pas tout seul entre 6 ans et 12 ans. Et quand on est tout seul à la maison, eh bien, c'est plus difficile. Et on a aussi travaillé, je suis en train de travailler sur le congé de naissance pour permettre aux familles, et en particulier à la classe moyenne, de pouvoir prendre un congé de naissance et de rester les premiers mois avec le bébé, parce qu'on sait à quel point aujourd'hui, ce temps, on le désire, mais on n'a pas les moyens de pouvoir le prendre. Parce que les factures à la fin du mois, elles arrivent quand même. Et donc, deux personnes peuvent le prendre, en tout cas deux types de personnes, ceux pour qui le forfait de la prépare et le revenu sont assez proches, donc ça c'est l'allocation qui est versée, soit on a suffisamment d'argent, on a suffisamment mis d'épargne pour pouvoir finalement mettre de côté et ne pas avoir besoin de travailler pendant cette période.
D'une phrase, je voudrais vous...
C'est la grande majorité des Françaises et des Français.
On arrive au terme de cette interview, Madame la Ministre, Sarah El Haïry. Dites-moi juste une petite question, très vite, hein, d'une phrase. Hein, j'aimerais vous faire réagir et commenter. C'est que on voit cette violente charge, vous savez, de Marion Maréchal contre l'artiste Nakamura. Ça vous a fait réagir et face à cette montée, vous savez, de haine concernant cet artiste ?
Il y a une montée de haine. Moi, j'ai vu les banderoles. C'est des propos racistes. Et dans notre pays, c'est un délit. Ce n'est pas un avis, ce n'est pas une idée, ce n'est pas une position. C'est un délit. C'est ça que j'ai lu sur Twitter. Les banderoles qui disent « pas chez nous », qui disent « pas, c'est pas le marché de Bamako », c'est raciste. Aujourd'hui, Aya, c'est une grande artiste française. Elle fait la fierté de beaucoup de monde. Moi, j'aime bien, j'écoute, j'avoue. D'ailleurs, j'ai communiqué publiquement pour apporter mon soutien. qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une chose, mais que on soit d'une violence et d'une haine raciste, c'est autre chose. Et j'espère que les procédures judiciaires seront engagées contre ceux qui aujourd'hui tiennent ces propos racistes, contre une grande artiste française.
Merci Madame la Ministre. Sarah El-Haïry était avec nous, notre invitée dans Les Informés. Madame la Ministre, donc chargée de l'enfance, la jeunesse et des familles. Merci, à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt. Et belle journée à tous.
Merci, belle journée à vous. On se retrouve dans une poignée de minutes. On marque une pause. Je vais saluer tiens, nos débatteurs, débattrices. Rachida Kaout, bonjour.
Bonjour.
Bien réveillée, tout va bien?
Oui, toujours.
Jimmy Dalidou, bonjour.
Bonjour à tous.
Pierre-Henri, bonjour.
Bonjour.
Amine Sa, bonjour.
Bonjour Adil Farkan.
Eh bien, on se retrouve tout de suite après pour commenter les sujets qui ont retenu notre attention. Allons-y.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Allez, c'est parti, le face-à-face. Jingle.
Les informés. Le face-à-face.
Le face-à-face avec Rachida Kaou, avec Jimmy Dalidou, avec Pierre-Henri, enfin avec Amine Sa. Nous allons tout de suite commencer ce sujet avec, vous savez, notamment le vote de soutien à l'Ukraine. Alors moi, ce qui retient mon attention, figurez-vous, vous êtes un peu haut là, non? Vous n'êtes pas un peu haut sur votre siège là?
Non, mais je suis perché, bien.
Là.
Je suis bien.
Bon,
ben
d'accord,
voilà.
Ok. Non, je m'inquiète. Vous avez
attention,
vu, je prête attention.
Comment ça, hein. Je suis perché?
Non, mais j'ai vu, vous étiez perché là. Vous êtes au sommet. Au sommet, quoi.
Oui, oui.
Perché au sommet.
Je vais essayer d'y rester.
Oui, c'est une bonne chose, hein, vous savez. Alors, soit on est pro-Macron, soit on est accusé d'être pro-Poutine. Beaucoup le pensent, Pierre-Henri.
Oui. Moi, je trouve surtout que l'époque est très décontractée de la glotte et que l'on dit à peu près n'importe quoi.
Pourquoi on a du mal à entendre ce que parfois dit le Rassemblement National? Il y a des choses qui voilà, il y a des choses.
Ah mais nous sommes dans un moment de pensée binaire autour de cette question, et je pense que la binarité, elle vient un peu de tous côtés. Elle vient aussi bien du côté gouvernemental que du côté du RN, voire de LFI. Ce que je veux dire par là, c'est que y a un agresseur dans l'affaire russo-ukrainienne, peu importe les conditions dans lesquelles cela s'est passé, et si la guerre de toute façon doit se terminer par une négociation, vaut mieux être en position de force. Donc les conditions aujourd'hui ne semblent pas réunies, et en plus nous n'avons pas toutes les informations nécessaires pour juger de la situation. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu aussi un vote à l'Assemblée nationale qui instrumentalise cette question. Je pense pas que la situation soit aussi claire entre pro-Poutine ou pro-Macron. La question est beaucoup plus grave que cela. Moi, quand j'entends Poutine dire avec beaucoup de décontraction, bah, vous savez, moi, la guerre nucléaire, je ne la crains pas. Je peux la faire, je la souhaite pas, mais je peux la faire. Quand on parle de troupes européennes, voire françaises, au sol, ça pose quand même de gros problèmes. Et donc, voilà, je trouve que l'époque parle de la guerre avec une singulière décontraction. Et bah ça me gêne.
Tiens, je vais aller voir ce qu'en pense Jimmy Dalidou, ensuite Rachida Kaou et Amine Sa. Jimmy Dalidou.
Ben écoutez, ce qu'a dit et les propos de Marine Le Pen reflète ce que j'appelle le gramschisme d'extrême droite. C'est-à-dire le fait que, en fait, on a dans une situation qui est que il y a des phrases qui sont dites par le Rassemblement national et qui normalement devraient pas être dites par ce parti politique.
Donc vous êtes d'accord
malheureusement
avec
elle. Non, c'est plus complexe que ça, la politique, vous le savez bien. Ce que je dis, c'est que ça fait des années que nous avons une gauche qui ne fait plus son boulot
en tant
que
et qui est
clairement du côté de la classe exploiteuse guerrière, et donc forcément force est de constater que ils ont récupéré certaines vérités. Normalement, malheureusement, c'était pas elle de le dire.
C'était qui alors?
Normalement ça aurait été à tous les gars de qui se dit véritablement de gauche et qui milite corps et âme contre la guerre, etc.
C'est donc vous venez retoquer les propos de
Pierre-Henri. C'est pour ça que j'appelle ça du grabschisme d'extrême droite. Ouais. Vous voyez. Alors sur la guerre en elle-même, j'entends monsieur Pierre-Henri qui parle de l'agresseur en faisant croire que l'agresseur serait forcément, vous savez, c'est le monde bisounours, vous voyez, c'est le monde des bisounours, il y a des gentils gentils et des méchants méchants. Les gentils gentils sont à l'ouest et les méchants méchants sont à l'est. Malheureusement, lorsqu'on parle des pro-russes qui étaient brûlés dans les églises après le coup d'État Euromaïdan en 2014 dans le Donbass, par contre, il n'y avait pas d'agresseur, si vous voyez ce que je veux dire. Ça, c'est bizarre, ça. Donc là, je reconnais bien la position de ce monsieur qui est que de faire croire que le monde des bisounours, vous voyez, il y a des méchants méchants, ils sont tous à l'est. Donc, ouais, Gramsciste d'extrême droite. Là, ça vous savez,
c'est nouveau,
mais
ça.
C'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que là, tout à l'heure, depuis le début de l'émission, on parle de solidarité. Solidarité, mais qu'est-ce qu'il est beau ce mot-là. Il est plein d'utopie, c'est joliment dit, c'est bien, mais ouais, mais la solidarité ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit des différentes revendications, notamment la principale revendication du peuple français, du peuple opprimé de France, qui est « je ne veux pas aller à la guerre ». Je veux la paix et avoir des conditions,
bénéficier
des conditions d'existence, favorables. Monsieur Macron a rencontré Monsieur Zelensky, n'a-t-il pas donné 3 milliards pour faire la guerre?
Ouais.
Mais si, par contre, est-ce qu'il a donné autant d'argent pour augmenter les salaires?
Alors, Rachida Kaout, prenez la parole justement et sur cette déclaration de Marine Le Pen et sur ce qui a été dit notamment. Ouais, effectivement. Ça fait débat.
Non, l'heure est grave. Et puis là, j'entends tout ce que j'entends depuis tout à l'heure. Il ne faut pas oublier quand même que la guerre est à nos portes. Hein. Donc, il y a des milliers de morts en Ukraine, de nombreux enjeux. Et puis, parler ou trouver...
Il n'y a pas qu'en Ukraine, mais il y a des morts.
Non, mais il n'y a pas qu'en Ukraine. Mais là, en l'occurrence, on parle de l'Ukraine. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, en fait, il faut arrêter de dire, eh bien, non, c'est la gauche, la droite, l'extrême gauche, machin. Enfin, il n'y a pas... Aujourd'hui, il n'y a pas à être pro-Poutine ou bien encore... Pro ce que vous voulez. Il faut être pro-France, pro-Europe. Il faut impérativement faire front commun, être derrière le président de la République. Moi, je me réjouis que l'Assemblée, justement, ait voté pour, parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Quand j'entends le RN ou encore Marine Le Pen, je me dis que ces gens sont inconscients. Ces gens nous mènent à la guerre, en fait, gratuitement, sans en peser les conséquences. Aujourd'hui, en fait, ils font le dos rond face à un Poutine. Ça me rappelle années 1938.
J'entends ce que vous dites. Vous parlez de
front commun. Que, justement, eh bien, non, la guerre, ça ne nous touchera pas. Sauf qu'en fait, on s'est tous retrouvés, bien sûr, en guerre.
Mais madame, ça, madame,
je ne vais pas vous rappeler l'histoire, mais l'histoire
non,
en fait
mais
nous
je
apprend.
Je connais aussi l'histoire, mais madame, vous parlez de front commun.
Et qui veut la paix prépare aussi la guerre.
Madame,
donc il y a un moment,
madame,
en pleine front conscience.
Front commun.
Non,
alors répondez avant de donner la parole à Mitcha.
C'est juste pour terminer. Moi, je pense que ni vous, ni moi, ni aucune personne sur ce plateau n'avons envie d'avoir justement des troupes demain en train de débarquer,
non, mais madame,
faire la guerre.
Non, madame, vous parlez de front commun.
Vous parlez de front commun.
Est-ce qu'il y a eu... Est-ce qu'il y avait... À l'époque, madame, vous parlez...
Tout le monde à prendre la mesure de la gravité
de la situation. Si vous tenez cette ligne, madame, il faut aussi analyser les différents éléments d'une manière globale.
Mais on n'est pas
en
là
2014,
pour analyser,
lorsqu'il y a eu le coup d'État Maïdan, mais écoutez, il y a des causes à ce qui
alors
se passe,
donc,
malheureusement.
En fait,
lorsqu'il y a eu le coup d'État Maïdan de 2014 et que le gouvernement
que
français
passe.
Était serré la main à Svoboda, au Pravi Sector, qui ensuite ont intégré le gouvernement ukrainien et qui ont, mis en application une certaine sauvagerie dans le Donbass notamment. Est-ce qu'il n'y a pas là des causes qui ont malheureusement abouti à une guerre?
En fait,
il faut analyser l'histoire d'une manière globale.
On n'est pas à 2014,
on est à 2014.
Bah, plusieurs choses. D'abord, s'agissant de la formule employée par Madame Le Pen.
On comprend mieux l'ambiance.
Madame Le Pen qui disait soit on est si on n'est pas pro-Poutine, on est pro-Macron. La formule peut paraître comme ça, habile. Bon, si on creuse un tout petit peu, la réalité, c'est que mettre sur le même plan Monsieur Poutine et Monsieur Macron, je suis désolé, mais ça donne l'impression quand même qu'on a un peu de sympathie pour Monsieur Poutine. Parce que, autant je ne je suis loin de défendre l'idéologie que défend le président de la République, mais je ne le mettrai pas sur le même plan que M. Poutine. Et je crois qu'en cela, Madame Le Pen a commis une erreur pour ceux qui réfléchissent un tout petit peu, ceux doués d'intelligence, et qui ne restent pas sur la surface de cette formule. Ensuite, il faut regarder sur le fond. Le Rassemblement national est extrêmement mal à l'aise avec cette histoire. Le vote d'hier n'était pas contraignant. L'accord est déjà signé, les moyens sont déjà mis en œuvre, l'aide parvient déjà à l'Ukraine. Après, on peut estimer que c'est suffisant, pas suffisant, ça c'est un autre débat. Mais le vote d'hier organisé par le président de la République n'avait pour seule ambition que de mettre ce débat-là au centre de la campagne européenne. Et c'est d'ailleurs pour cela que demain, le président de la République va faire la grande messe sur TF1 et France 2 demain pour nous expliquer que c'est une victoire qui a été obtenue hier lors de ce vote. Je termine. Ensuite, Madame Le Pen, qu'est-ce qu'elle a fait hier? Elle s'est abstenue. Et vous savez qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a justifié son abstention en soutien au peuple ukrainien. Elle a dit « Je me suis abstenue en soutien ». Mais ça n'a pas de sens. Il fallait voter pour dans ce cas-là. Les seuls qui ont voté contre hier, ce sont les représentants de la France Insoumise et quelques autres députés indépendants et du PC, exactement. Pour plusieurs raisons. D'abord, ils savaient que ce n'était pas contraignant et que donc ce vote-là n'empêcherait pas l'aide de parvenir. Ensuite, il y avait des choses dans ce texte qui a été voté hier. Il y avait dans ce texte notamment l'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Il y avait l'adhésion à l'Union Européenne qui pose un certain nombre de problèmes, non seulement sur les aspects militaires, etc., mais aussi du point de vue économique. Que deviendront nos agriculteurs qui sont déjà en très grande difficulté demain avec l'Ukraine qui serait membre de l'Union Européenne? Il faut qu'on se pose ces questions-là. Absolument. Et puis, on sait bien que l'adhésion à l'OTAN est une ligne rouge vis-à-vis de Moscou. Et donc, toutes ces questions-là empêcher un vote unanime à l'Assemblée hier, et je crois que hier les députés France Insoumise et les députés, pour répondre à Jimmy Dalidou, et les députés PCF ont été à l'honneur en votant contre ces dispositions à l'intérieur parce qu'ils savaient qu'il n'y a pas de contrainte
à
ce texte.
On marque une pause et on se retrouve. Justement, je voudrais qu'on avance aussi sur les autres sujets qui ont retenu notre attention, notamment les propos racistes, haineux, etc., qui circulent et qui continuent de circuler sur les réseaux sociaux. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous. Un seul numéro aussi, le 01 53 48 3000. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 10h, 11h, les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés avec Rachida Kaout, avec Jimmy Dalidou, Pierre-Henri et enfin Aminsa. Nous allons aborder ce second sujet. Mais avant, vous savez quoi? Alors évidemment, c'est le face-à-face. L'artiste Aya Nakamura face à la politique qui s'appelle Marion Maréchal Le Pen. Écoutez cet extrait. C'est une déclaration, c'était sur BFM TV, pardon, et elle parle évidemment de ces propos haineux qui circulent sur les réseaux sociaux. Écoutez.
C'est un choix politique et revendiqué comme ça.
C'est-à-dire quand Mireille Mathieu chante.
Quel est le choix politique? Le choix politique, c'est de dire on veut représenter donc la France multiculturelle. On veut représenter, la France qui ne chante pas français, parce que cette chanteuse, on aime ou on n'aime pas, mais elle ne chante pas en français. Et vous voyez, pour moi, cette polémique, elle recoupe la polémique de l'effacement de la croix sur le dôme des Invalides. C'est-à-dire que chaque fois que la France, le monde regarde la France, donc en l'occurrence à l'occasion des JO,
mais c'est la laïcité.
On fait tout.
Vous savez très bien, c'est une règle.
Quel rapport avec la laïcité, excusez-moi?
On ne peut pas faire une affiche pour les Jeux Olympiques avec des signes religieux.
Je vais au bout de mon raisonnement.
Non, mais je veux dire, par contre, il faut quand même se mettre d'accord sur les règles. Je veux bien que vous changiez les règles des JO.
Je vais au bout de mon raisonnement. D'ailleurs, même des étrangers s'en sont offusqués, même des Italiens, d'ailleurs, se sont offusqués du fait qu'on ait effacé cette croix sur le dôme des Invalides. C'est toujours la même chose. Ça veut dire qu'en fait, chaque fois que le monde nous regarde, on donne l'impression qu'on n'assume pas ce qu'on est, qu'on n'assume pas d'être un pays aux racines chrétiennes, qu'on n'assume pas d'être un pays de culture européenne.
C'est parce qu'elle est noire?
Non, pardon, madame, ça n'a rien à voir. Pardon, excusez-moi.
Ouais, bon, parce qu'elle est noire, parce qu'elle est pas noire. C'était l'interview donc sur BFM TV. Pierre-Henri.
Oui, d'abord. Moi, je peux pas vous dire que j'ai la chanteuse Aya Nakamura dans ma playlist. Cela étant,
ça m'aurait étonné.
Cela étant, c'est une grande artiste, française qui vend énormément dans le monde entier. Et puis, après tout, ça plaît aux jeunes. Il n'y a pas moyen. Ça raconte une histoire. qui plaît aux jeunes. Et c'est pas parce qu'il y a un bataillon d'abrutis autour de Reconquête avec le binôme Marion Maréchal Le Pen et comment s'appelle-t-il, Ossam
Messia,
Jean Ossam Messia, que franchement il faut alimenter cette polémique de l'extrême droite. Oui. Donc voilà. Eh bien, si Nakamura chante Piaf, ben je serais très content. Puis c'est à l'image de notre pays. Il faudrait peut-être que
Marion... Pour rappeler, Aya Nakamura, c'est un gros carton. Hein.
Mais bien sûr.
En France. Mais et à l'international.
Mais à l'international.
Et c'est la seule artiste qui cartonne à l'international.
Mais absolument.
C'est pour ça qu'on l'oublie.
Et c'est une artiste française. Et qui parle français, qui parle un français qui est usité dans les, notamment dans un certain nombre de territoires, comme on dit, pour ne pas dire banlieue, et qui parle et qui raconte une histoire. Et donc, c'est la France multiculturelle aujourd'hui. Et si, en plus, elle peut ressusciter Piaf, eh ben pourquoi pas, bravo, et j'applaudirai, et puis je chanterai avec elle. Oh, Dja-Dja, oh,
non,
Dja-Dja,
il n'y a écoutez, pas moyen. Il faut dire notre réalisateur, justement, qui nous a concocté un petit extrait. Regardez, pour ceux qui auraient oublié Aya Nakamura.
Bah, j'espère que ça va être Dja-Dja, qu'on puisse de bon matin. Mais il y en a d'autres.
Mais comment ça, demandait-il, tu croyais quoi? Je pourrais t'afficher, mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Dja Dja, y'a pas moyen, Dja Dja. Je suis pas ta cata, Dja Dja.
Voilà Pierre-Henri, oh Dja Dja. Voilà, ben voilà. Voilà. Rachida Gaout, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur cette violente charge?
Alors moi, je suis très heureuse qu'il y ait cette polémique en réalité.
Ah bon?
Oui. Je vais vous dire pourquoi. Bah, parce que justement, ça fait émerger toute la difficulté. À accepter la réussite de gens issus de la diversité.
Oui.
Alors ça veut dire quoi?
Je vais vous rejoindre.
Ben oui, mais cette polémique, justement, elle est juste formidable. Donc il ne faut pas la voir de manière négative, au contraire, il faut la voir de manière positive, dans le sens où, eh bien non, il ne faut pas juste commenter en disant « Oh, ben c'est inadmissible, de toute façon, Reconquête, on sait qu'ils sont souverainistes, on sait qu'ils sont hyper racistes, c'est plus du racisme, c'est hyper raciste. » Et puis le Rassemblement National, pareil, même combat. Donc ça veut dire quoi? Eh bien, on va arrêter de commenter et puis on va se bagarrer pour que justement ces partis qui nous divisent aujourd'hui, ces personnes en fait qui sont pour justement une France divisée et qui sont en train de semer les graines du chaos, eh bien il faut les combattre en disant eh bien non, la France d'aujourd'hui, c'est cette France plurielle, c'est ce melting pot qui est juste magnifique avec tous ces talents qu'il faut à chaque fois valoriser, mettre en avant. Et puis encore une fois, moi je trouve que le président de la République a très bien fait de choisir une personne issue diversité.
On ne sait pas encore. Hein.
C'est le comité qui a choisi.
Le choix n'est pas encore arrêté. Elle est pressentie pour être justement la chanteuse. Tout à fait. Mais en tout cas, je pense qu'il devrait valider ce choix et puis que tout le monde doit soutenir ce choix parce que, encore une fois, ça représente ce qu'on aime, ce qu'on veut, ce qu'on souhaite aussi avoir pour pouvoir rayonner au niveau international. Les Jeux Olympiques, c'est ça, c'est rayonner au niveau international. Et en même temps, Aya Nakamura, c'est une franco-malienne, c'est une femme de son temps. Donc dire qu'elle parle pas français, qu'elle chante pas français, faut pas oublier que la chanson, c'est des effets de style. C'est comme si on disait à Gainsbourg, quand il avait chanté sa chanson, où il disait, je sais plus, la guerre, etc., aux armes, etc., etc. C'est la même histoire. Hein. Donc il y a un moment, est-ce qu'on va aller chercher dans le fin fond de la petite ridule pour voir en fait si ça, effectivement, c'est français ou pas? Oui. C'est aussi remettre en question Johnny Hallyday qui a changé son nom. C'est la même chose, c'est n'importe quoi. Donc, utilisons cette polémique pour justement mettre en avant le fait que, eh bien, on doit tous faire front commun et combattre toute forme de racisme et toute forme de sectarisme.
L'angle est intéressant, oui, il se défend. Aminsa.
Aya Nakamura, tout comme Yannick Noah, Karim Benzema et bien d'autres, est une personne qui a réussi, qui fait rayonner la France à l'échelle internationale.
Et qui a provoqué à un moment une polémique.
Qui fait rayonner la France à l'échelle internationale et qui est critiquée, non pas pour sa musique, pour son style, parce que c'est une artiste et les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, mais pour ce qu'elle est profondément, à savoir une jeune femme qui a réussi, qui est issue de la diversité, qui a des origines maliennes. Et en fait, pour revenir sur les propos de Madame Marion Maréchal Le Pen, en réalité, elle a été assez ronde. On parle d'une charge. Elle a été très, très, très prudente dans sa, dans son expression.
Ouais, quand même,
celui, par contre, charge, hein, qu'on entendait ce matin chez Madame Mabrouk, chez Sonia Mabrouk sur Europe 1, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale, qui qualifiait la fameuse, vous savez, l'affiche là qui a été diffusée sur les réseaux sociaux par les, le groupe Les Narratifs,
oui, oui,
qui disait en substance, ici c'est Paris, Paris, ici c'est Paris, c'est pas Bamako. Bamako. Et certains se sont dit, mais non, c'est pas raciste, machin. Ben, il a qualifié cette, cet acte-là de mauvaise blague ou en tout cas de mauvais goût. Mais non, c'est un propos raciste. Rappeler à Madame Nakamura, je ne sais pas si c'est son nom ou pas, ou si c'est un nom d'artiste, mais lui rappeler qu'elle est... qu'est, de la renvoyer à ses origines en faisant le parallèle entre Paris et Bamako, sous-entendu quand même,
quand
qu'on,
même, hein,
qu'on est quand même un tout petit peu dans un discours c'est péjoratif clair, hein, à l'égard de ce que peut être Bamako, Jimmy, et donc de ce qu'elle peut être elle, eh bien ça, c'est raciste, ça doit être condamné. Et donc, il y a, il faut le dire quand même, sur les plateaux de télé, il y a un certain nombre de,
ouais,
de,
écoutez,
de
protagonistes. Jimmy, ouais, Jimmy. Ouais, écoutez, ce qui est réconfortant, c'est que Reconquête est passé en dessous de la barre des 5%, donc il, oui, continue comme ça.
Oui. Sur, Jimmy, avant, écoutez, de retrouver le code neuf.
Ouais, non, mais ses propos sont nauséabonds et à vomir. Deux choses. D'abord, son approche
avec, ça la, suffira, hein,
avec, sur la croix, concernant la croix, c'est, ça, c'est une, enfin, c'est une tentative de faire voler en éclat la laïcité et mettre en avant une approche en plus qui prend à part de la culture. Ça ne reflète pas, absolument pas, la France telle qu'elle est réellement, la France multiculturelle, la France, la cosmopolitanie, la France black, blanc, beurre,
c'est
telle qu'on aime,
ce que refuse
ça,
de voir,
voilà, la France, et la France qui, la France actuellement, la France, c'est la France, c'est la cosmopolitanie, c'est celle qu'on aime, c'est comme ça qu'elle fonctionne, par la diversité des cultures, qu'elle le veuille ou qu'elle le veuille pas, c'est comme ça.
10h50, on est dans les clous, on est dans les temps, c'est le Quoi de Neuf, comme chaque mercredi, c'est le professeur, le docteur Majid, c'est aussi une, c'est parti.
Les informés, le Quoi de Neuf.
Bonjour mon cher docteur, comment ça va?
Bonjour Adil, vous nous avez obligé à nous lever très tôt à cause de cette pratique ancestrale du jeûne contraint.
Ah, vous avez vu ça, contraint surtout, c'est surtout ça. Allez, je vous lance pour votre billet d'humeur, comme chaque mercredi, vous allez nous parler de Gaza, fin de vie, guerre en Ukraine, allons-y.
Bon, écoutez, mon cher Adil, j'avoue que je suis un peu perplexe car nous sortons d'une révolte des agriculteurs qui s'époumonne à juste titre pour que nous consommions des produits français et qu'on achète du poulet français sans hormones plutôt que du poulet ukrainien radioactif. Et ne voilà-t-il pas que le Premier ministre, hier, nous explique au Parlement que nous devons soutenir l'Ukraine pour continuer d'avoir de la moutarde, de l'huile de colza et du poulet braisé à 5 euros le kilo. Je ne comprends plus rien. Ou alors, c'est que l'extrême droite a raison, Macron et Attal, c'est le parti de l'étranger.
Ah, j'avoue, là vous avez fait le parallèle, c'est pas mal. Bravo.
Bon, Rassemblement National, qui soit dit en passant, joue un jeu de dupe. Tout le monde pense qu'elle fait semblant de soutenir l'Ukraine en s'abstenant, par exemple hier, de voter. Mais en réalité, elle brûle tous les jours des cierges à Saint-Nicolas du Chardonnay et fait dire des messes pour la défaite de la Russie, tout simplement car Vladimir Poutine est son banquier. Plus de Poutine, plus de dette, mon cher Adil. Et en tout cas, j'ai bien peur que nous ayons bientôt notre Donbass en France, et je vous fiche mon billet qu'Emmanuel Macron, notre président cuirassé, va bientôt déclarer la guerre à Ajaccio. Darmanin et les représentants corses ont enfin trouvé un accord sur une autonomie de la Corse, ce qui ne va pas plaire à tout le monde, notamment à tous les jacobins qui veulent un État central. Fort. Les Corses, ces espèces d'Arabes qui n'ont pas eu le courage de finir de traverser la Méditerranée, vont enfin pouvoir vivre entre eux, en mangeant du brochu. Le risque, c'est qu'il donne envie à d'autres, basques, bretons, alsaciens, habitants du 7e arrondissement de Paris. Et sans s'en rendre compte, on vient probablement d'ouvrir une porte. Qui sait si un jour Rennes ne demandera pas l'autonomie? Notre président, décidément hyperactif, nous a annoncé une loi sur la fin de vie et nous a enfin dit un peu plus ce qu'il comptait mettre dedans. Et une fois de plus, il réussit la performance de faire du « en même temps ». Une espèce de suicide assisté qui n'en est pas et une euthanasie qui n'en est pas non plus. Mais même là, il arrive à nous faire du en même temps, au risque de fâcher une nouvelle fois tout le monde. On sait qu'au fond, lui-même, il n'y est pas favorable, donc il lâche sans rien lâcher. Il y en a d'autres, eux, qui pensent à la fin de vie, par la faim. Ce sont les Palestiniens de Gaza qui, cette semaine, se sont vus annoncer un soutien alimentaire par Biden qui va nécessiter, entre la logistique et la création du port artificiel, à peu près 2 mois. Autant dire qu'on ne leur laisse pas le choix entre l'euthanasie et le suicide assisté. Pour eux, ce sera le meurtre.
Ouais, effectivement. Vous avez bien raison de le rappeler, hein, effectivement. Bravo pour votre billet d'humeur comme chaque mercredi, mon cher docteur et le professeur. Ça va? Ça se passe bien en ce moment dans les hôpitaux?
Oh, vous savez que c'est la joie.
La joie, ouais. C'est vrai. C'était pas la question qu'il fallait poser.
Ordre,
ouais.
C'est
en ordre. C'est la crise, c'est la crise, ouais, effectivement. Bon courage, mon cher docteur, bon courage, il va falloir. Hein.
Il va falloir, exactement.
Exactement. Rachida Kaout, l'élu d'Ivry, bon, à bientôt.
Oui, à bientôt. Merci encore pour votre invitation. Et puis,
mais plaisir.
Merci à tous les auditeurs.
Évidemment, vous êtes chez vous ici, vous venez quand vous voulez. Hein.
Merci Adil.
Jimmy Dalidou, le représentant syndical CGT.
Merci à tous.
Et auteur aussi, hein, auteur.
Toujours.
Pierre-Henri.
À bientôt,
Pierre-Henri.
Sur Beurre FM.
Bien sûr qu'on est bien. On est tellement bien qu'on a envie de rester. Hein,
voilà.
Rester là,
ouais,
Rachida est là.
Ça va pas du tout. L'émission est déjà terminée.
Vous savez pourquoi? C'est parce que, non, là, je vais vous dire la vérité. Le mois du Ramadan, c'est un mois où beaucoup, on a un gros taux d'écoute. Très gros, non, mais vraiment. Très gros d'écoute.
Les informés.
Ça traduit. Pas du tout. Donc ça traduit, ça vous a pas échappé. Non, mais attendez. La pub, elle dure combien de temps? 10 minutes.
Mais il faut faire rentrer un peu d'argent.
10 minutes. Ouais. Donc, vous avez moins de temps de parole.
Ben voilà.
En tout cas, faudrait dire très bon Ramadan à tous ceux qui font le Ramadan. Et encore une fois, paix, résilience et puis...
très bon Ramadan.
Très, très bon Ramadan.
Oui, ben, très bon Ramadan à ceux qui le font. Oui. Et très bon mois de Ramadan à ceux qui ne le font pas.
Vous avez bien raison. Voilà. Amine Sarah, à bientôt.
Merci à vous et à très vite.
Merci à vous. Merci à la réalisation à Faudil. Philippe, dans une poignée de minutes avec AVS. Et ensuite, après, les programmes ce soir continuent. Vous savez, hein, vous allez retrouver les programmes Ramadan. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe? Philippe, j'ai dit à Pierre-Henri.
Et c'est parti pour 6 minutes de pub.
À demain, avec autant de plaisir, on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.